Hier au Parlement européen se tenait une conférence avec comme thème l'antisionisme, deux points, le visage acceptable de l'antisémitisme en Europe, point d'interrogation. C'était organisé par le Congrès juif européen. Blaise van der Linden y était envoyé par Radio Judaïka. Il interrogeait à cette occasion Isabella Tabarovski, une écrivaine d'origine soviétique, spécialiste de l'antisémitisme, et puis les docteurs Christer Mattsson, professeur à l'université de Göteborg, et Marlène Boudry, bien belge, lui, qui est un philosophe, qui a été chercheur et spécialiste de tout cela à l'université de Gand. Voici ce qu'il a pu retirer de ses interviews en les interrogeant toutes et toutes les uns après les autres.
You started with the 1920s and the antisemitism in the Soviet Union. Now we're in 2020.
Vous avez parlé des années 1920. Quelles sont les similitudes avec ces périodes, avec celles actuelles?
Je pense que la principale similitude se situe dans la période postérieure à 1967. C'est à cette époque que le discours qu'on entend aujourd'hui, le discours antisioniste, s'est véritablement développé en URSS. C'est là que réside la plus grande similitude. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les soviétiques, les bolcheviks qui ont mené la révolution en 1917, ont toujours été antisionistes. Le gouvernement soviétique, la politique soviétique ont toujours été contre le sionisme. C'est juste que la nature de cet antisionisme a évolué au fil des ans. L'antisémitisme de Lénine était différent de celui de Staline et différent encore de l'antisionisme d'après 67. Et ce qu'il apporte, c'est qu'après 67, sous Staline déjà, il commence à prendre ses traits conspirationnistes qui correspondent au protocole des sages de Sion. C'est une production russe du début du XXe siècle et c'est cette similitude qui la rend dangereuse. Même si on remplace juif par sioniste, on évolue toujours dans un univers conceptuel de la théorie du complot qui présente les juifs comme à la fois sous-humains et surpuissants, comme des personnes qui veulent contrôler le monde et le soumettre. C'est comme ça que les adeptes des protocoles et du parti nazi en Allemagne percevaient les juifs, et c'est ainsi que les antisionistes aujourd'hui les perçoivent, ce qui au final revient de toute façon au même.
Nous avons toujours associé l'antisémitisme à la politique d'extrême droite, mais dans votre discours, vous disiez, démontriez que l'extrême gauche est aussi historiquement antisémite.
Mais oui, c'est tout à fait exact. Je pense qu'une partie du problème dans les sociétés occidentales est qu'elles ont ignoré, certainement en Amérique, on le voit, non seulement l'histoire de l'antisémitisme soviétique, mais aussi l'histoire de l'Union soviétique en elle-même. Et donc, les gens ont été élevés, juifs comme non-juifs, en croyant que le plus grand danger pour la démocratie et pour les minorités, y compris les minorités juives, venaient de l'extrême droite. Mais moi, j'ai grandi en URSS. Je sais que ça n'est tout simplement pas vrai. Sous l'Union soviétique, vous voyez comment les juifs ont été victimes de discrimination sous différents prétextes. La philosophie est un peu différente, mais au final, les socialistes veulent asservir les juifs d'une manière différente. Bien des égards, c'est similaire à celle des personnes d'extrême droite. Ça revient au même.
Et dans cette journée hier, eh bien, Blaise van der Linden a également rencontré Christer Mattsson, docteur à l'université de Göteborg.
Au cours de votre présentation, vous avez cité Jean-Paul Sartre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette phrase et nous dire pourquoi vous l'avez mentionnée?
Eh bien, il a écrit cela en 1944, avant même la fin de la guerre. Il a écrit « S'il n'y avait pas de juifs, les antisémites les inventeraient ». L'antisémitisme ne concerne donc pas les juifs, l'antisémitisme concerne les antisémites et leurs fantasmes sur les juifs. Et ces fantasmes font partie de leur processus de construction du sens, pour qu'ils puissent percevoir le monde tel qu'ils souhaitent qu'il soit, pour qu'ils puissent se considérer comme des personnes vertueuses engagées dans une bonne cause, ils doivent créer un juif imaginaire qui soit, pour ainsi dire, l'antithèse ultime de leurs bonnes actions. Et c'est là la structure fondamentale qui a caractérisé l'antisémitisme depuis les premiers chrétiens jusqu'aujourd'hui. Chaque génération est capable de voir le problème de l'antisémitisme des générations précédentes, mais incapable de voir comment elle a intégré l'antisémitisme dans de nouveaux fantasmes suivant le même schéma.
Comment relier cela au thème de la conférence d'aujourd'hui sur l'antisionisme ? Quel lien y a-t-il entre 1944 et 2026 ? Est-ce qu'on est dans une ère anti-Israël aujourd'hui ?
Le juif imaginaire, le juif collectif dans le fantasme des antisémites à travers les générations, s'est transformé en Israël ou en sionisme. Ainsi, Israël en tant que pays ou le sionisme, non pas le mouvement sioniste, mais le terme vide, le terme sans aucun contenu, le terme sioniste, a été réinventé par les antisémites afin de perpétuer les stéréotypes et les théories du complot vieux d'un siècle. Hier, ils disaient que les Juifs contrôlaient les médias. Aujourd'hui, ils disent que les sionistes contrôlent les médias. Même fantasme, nouvelle appellation, même résultat. Et lors de cette conférence, Blaise van der Linden a également rencontré Martin Boudry, chercheur en philosophie et sciences morales à l'Université de Gand de 2006 à 2025.
Martin Boudry, vous avez commencé votre intervention, Martin Boudry, en disant que dans les médias belges, il y a un consensus sur les campus, notamment en Flandre et à Gand. Mais au cours de votre exposé, vous avez indiqué que ça n'était pas tout à fait vrai et que les gens ne disent pas, en fait, qu'ils soutiennent Israël et le sionisme.
During your exposition, you were saying that it's not the truth, but people do not say that they support Israel and they support Zionism.
Oui, en effet, il y a une apparence de consensus dans le monde universitaire, ainsi que dans les médias, bien sûr. On n'entend pratiquement aucune opinion dissidente sur le conflit à Gaza. Tout le monde semble s'accorder sur le fait que ce qui se passe est un génocide. Mais je sais pertinemment que beaucoup de gens s'écartent en privé de cette option dominante, mais n'osent pas s'exprimer pour diverses raisons, car ils craignent des conséquences professionnelles tant dans le milieu universitaire que dans le monde du journalisme. Je ne dirais pas qu'il s'agit d'une majorité silencieuse, mais d'une minorité non négligeable. Et ils sont bien plus nombreux qu'on ne le pense. J'ai recueilli quelques témoignages anonymes pour un article dans le Jewish Chronicle, principalement auprès d'universitaires, mais vous pourriez faire la même chose dans le monde politique et dans les médias, vous constateriez exactement le même phénomène. Il y a une spirale du silence due à la pression idéologique, aux menaces et à l'intimidation où les gens disent ou sont contraints de dire des choses auxquelles ils ne croient pas vraiment, au fond, d'eux-mêmes.
Vous, personnellement, vous étiez enseignant à l'université de Gand. Vous avez décidé de quitter cette université. Expliquez-nous pourquoi, même si on devine un peu la raison.
Eh bien, il y a plusieurs raisons. Je n'avais pas de poste permanent à l'université de Gand, même si j'occupais un cours de pensée critique pendant plusieurs années, mais c'était un poste temporaire. J'occupais un poste de post-doctorant à l'UGent jusqu'à la fin de l'an passé. Je suis déçu par mon université depuis plusieurs années, en particulier depuis le 7 octobre. Même sous la direction de l'ancien recteur, qui est un ami personnel, j'ai été très déçu qu'il cède aux militants et impose un boycott sur Israël. Et ensuite, ils ont également décerné un doctorat honoris causa à l'une des antisémites les plus influentes au monde, Francesca Albanese, ce qui était vraiment une affaire honteuse. La nouvelle rectrice a également eu ses propres manigances qui n'ont rien à voir avec Israël. Elle a prononcé un discours d'investiture entièrement rédigé par l'IA avec de fausses citations. C'est vraiment embarrassant pour l'université. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, ça suffit, je veux pas de ça. Ça me brise le cœur parce que j'ai passé beaucoup de temps à l'UGent. J'y ai encore de merveilleux collègues, mais le climat idéologique ne cesse de se détériorer et ça me fait mal de voir que l'UGent est l'un des pires contrevenants du pays, voire au niveau européen.